Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Vous êtes au bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin. Merci beaucoup pour votre fidélité. Florence Sueur au micro, accompagnée de Philippe à la technique. Nous sommes bien sûr en FM, nous sommes en vidéo live via Facebook, page bar de l'économie. Et puis, vous pourrez retrouver cette émission, bien évidemment, sur notre chaîne YouTube. Alors, le thème du jour, eh bien, j'avais envie de mettre à l'honneur l'artisanat. C'est tout de même le premier employeur de France. C'est un secteur de proximité, c'est celui qui fait vivre la vie locale. Et j'avais envie de mettre à l'honneur en particulier l'artisanat d'art, d'autant dans ces périodes difficiles de pandémie. Et d'ailleurs, vendredi, je mettrai justement les artistes à l'honneur également. Alors aujourd'hui, pour parler d'artisanat et d'artisanat d'art, j'ai la chance d'avoir avec moi Yves Cogent d'Assamy. Bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes le directeur du développement économique de la Chambre des métiers du Val d'Oise. Ensemble, on va donc faire le point justement sur la situation économique en Val d'Oise. Florence Parigot, bonjour.
Bonjour.
Vous concevez et fabriquez un accessoire de mode en métal et en pierre semi-précieuse qui permet de garder ses lunettes près de soi et vous saurez tout à l'heure sur comment, je ne vais pas dévoiler tout de suite comment elle se porte. C'est Florence Parigot qui va nous l'expliquer. Alors, à nos côtés, nous aurons également Julie Dahan, qui est artiste verrier en vitrail et en luminaire, mais aussi elle fait de la restauration sur verre depuis août 2017. Et puis, nous avons à nos côtés Laurent Delol, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes artisan en métier d'art, vous fabriquez des bijoux fantasy depuis 2016, et c'est un tournant stratégique que vous avez opéré à l'époque, et on veut savoir, bien sûr, pourquoi et comment. Est-ce que ça a été facile, par exemple? Et puis, bien sûr, on va parler des magnifiques bijoux que vous faites. Et puis, nous entendrons, je suis allée à la rencontre de Valérie Aubin, que j'ai interviewée, car elle fait de la broderie au crochet de Lunéville, un métier très rare en France. Et donc, j'avais également envie qu'on l'entende, une brodeuse d'art à qui on peut demander des bijoux, d'ailleurs, comme de la décoration sur toute matière. Ça peut être sur des robes, ça peut être sur, je sais pas moi, des rideaux. Et elle nous expliquera tout ça dans quelques minutes. Mais tout de suite, c'est comme d'habitude les infos du jour. Mais avant les infos du jour, nous envoyons des pensées aux victimes des habitants des Alpes-Maritimes et aux familles des victimes dans les vallées de la Tinée, de la Roya et de la Visubie. Nous avons tous en tête ce couple de quadragénaires emportés avec leur maison du fait de la tempête Alex. C'est une scène de guerre à laquelle nous assistons. On a l'impression que le territoire a été bombardée, a décrit la préfecture des Alpes-Maritimes, qui d'ailleurs tente d'équiper chaque village isolé de téléphones satellitaires ou à défaut de moyens de radio de la gendarmerie ou des pompiers. Aujourd'hui, les équipes de ces 12 communes isolées bénéficieront de l'aide d'un pompier ou d'un gendarme ou d'un cadre de la préfecture pour qu'autour du maire, il puisse y avoir des équipes de travail directes. Ah, on commence maintenant nos infos du jour et tout de suite avec notre expert Bruno Vigoureux. Le débrief sportif du week-end. Bonjour Bruno.
Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Incroyable.
Oui.
Nous avons vécu hier en fin de journée un match de tennis incroyable. Vous connaissiez Hugo Gaston, vous, il y a une semaine? Non, c'est normal. Personne ne le connaissait en dehors de sa famille et de ses amis. Et pourquoi on connaîtrait le 239e joueur mondial? Mais aujourd'hui, c'est une vedette. Dans un Roland-Garros maussade où les Français tombaient les uns après les autres, un petit bonhomme de 20 ans est venu tout bousculer. Il a renversé la table. Déjà vendredi, il renvoyait au vestiaire le Suisse Stanislas Wawrinka, ancien vainqueur de Roland-Garros, 17e mondial, après un combat en 5-7 et un 6-0 pour finir. Excusez du peu. Et on n'avait encore rien vu. Hier, sur le central de Roland-Garros, le gaucher toulousain a encore livré un bras de fer terrible face au numéro 3 mondial, l'Autrichien Dominic Thiem, qui, comme nous, ne connaissait pas Gaston il y a 5 jours. 2-7-0 pour l'Autrichien, il n'y avait plus de suspense. Et puis, le Français a retrouvé la marche avant pour bousculer Thiem et revenir à 2-7 partout. C'était déjà comme une victoire pour le Français. Le cinquième set allait être accroché. Gaston martyrisait son adversaire avec ses amortis redoutables. Écoutez bien, il en a distillé 55 et il a remporté 40 points grâce à ce coup magique. Le maigre public du central avait lui aussi du talent et donnait à ce match de fou une dimension supplémentaire. Tout le monde se rendait compte que c'était un match énorme. Mais Thiem, vainqueur du dernier US Open, n'est pas numéro 3 mondial par hasard. Plus expérimenté, il parvenait à prendre le service de son adversaire et à enfin à se débarrasser du petit français. Hugo Gaston aura été un vrai rayon de soleil dans ce tournoi, la véritable révélation. L'homme qui a su redonner des couleurs au tennis français. Il suffisait de voir Tim féliciter son adversaire et le public, debout, pouvait hurler « Merci Hugo » pour comprendre qu'il s'était passé quelque chose sur le central. C'était un perdant magnifique. Alors, bravo gamin et à très vite. Je suis sûr que vous voulez des nouvelles de notre tout nouveau champion du monde de cyclisme, Julian Alaphilippe. Une semaine après avoir remporté son titre mondial, il a inauguré hier son maillot arc-en-ciel sur les routes de Liège-Bastogne-Liège, la doyenne des classiques, et d'une drôle de façon. Le Français a été d'abord fidèle à lui-même en dynamitant la course, mais il a commis une erreur incroyable à ce niveau de la compétition. Il pensait avoir la course gagnée et commençait même à célébrer sa victoire en levant les bras quand soudain il a vu débouler au tout dernier moment Primoz Roglic, le dernier vainqueur du Tour de France, et lui piquer la victoire. C'est ballot, non? Mais il y a pire. Accusé d'avoir causé une vague lors de l'emballage final, c'est-à-dire d'avoir fait un écart, il était déclassé et passait de la deuxième à la cinquième place. Dommage et trop bête. Mais enfin, cela démontre que Julian Alaphilippe reste un coureur de panache, de coups d'éclat, et aussi avec un peu d'insouciance, comme on a pu le voir hier. Mais bon, on va pas commencer à se plaindre. Pour une fois que la France possède un vrai champion capable de rivaliser avec les meilleurs. À propos des meilleurs, le PSG est peut-être en train de retrouver son meilleur niveau. Vendredi soir, il a aligné sa quatrième victoire d'affilée en battant Angers 6-1 et le voilà qui revient désormais à 2 points du leader Rennes. Mais c'est surtout dans la coulisse qu'il y a un sacré match entre l'entraîneur Thomas Tuchel et le directeur sportif Leonardo. Les deux hommes ne sont plus sur la même longueur d'onde au niveau du recrutement et c'est chaud entre eux. Ça, c'est Paris. Hier soir, toujours en football, le match entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille s'est terminé sur un match nul, 1-1. Marseille, réduit à 10 après l'expulsion de Dimitri Payet, a su résister plus d'une heure pour arracher le match nul. Mais on peut pas dire que ces deux équipes respirent la santé. Bon, je vous laisse et je vais continuer de regarder Roland-Garros où il ne reste plus qu'une seule Française après l'élimination hier de Caroline Garcia. Fiona Ferro sera opposée cet après-midi à la numéro 4 mondiale, l'Américaine Sofia Kenin. Ah, si seulement elle pouvait avoir le panache de Hugo Gaston. Allez, au revoir et à très vite.
Voilà, c'était le débrief sportif. Merci à Bruno Vigoureux pour cette magnifique chronique. On le retrouve dès la semaine prochaine. Alors, première info du jour, c'est un hommage bien évidemment au plus célèbre créateur de mode japonais, Kenzo Takada, connu pour ses imprimés graphiques et floraux, qui s'est éteint hier à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine des suites du Covid-19 à l'âge de 81 ans, a indiqué son porte-parole, alors que se tenait la semaine de la mode parisienne. C'est le premier styliste japonais à s'être imposé à Paris, où il arrive en 1965, et il a fait toute sa carrière à Paris d'ailleurs. Sa première collection date de 1970, conçue dans une boutique de la Galerie Vivienne. Il déménage en 76 Place des Victoires et fonde sa marque Kenzo, qu'il a vendue d'ailleurs au géant LVMH en 93. Il s'est retiré de la mode en 2000, mais avait lancé en début d'année une ligne de design. Sa première ligne pour hommes date de 1983, son premier parfum de 1988, et avec ses près de 8000 dessins, le créateur japonais n'a jamais cessé de célébrer la mode et l'art de vivre, a indiqué son porte-parole. Une info aujourd'hui, c'est donc la nouvelle plateforme internet de services et de mise en relation. Elle s'appelle Alliance Trade Union Pro, Trade Union Tous, Trade Union Solidaire. .fr, une idée de solidarité et d'entraide intergénérationnelle selon une nouvelle alliance des professionnels de la retraite, c'est-à-dire de l'Agirc Arco allié au groupe Agrica, à Audience, à B2V, à l'IRP Auto, à Lourmel et à Pro BTP, donc toutes des caisses de retraite, et c'est destiné aux salariés, aux personnes sans emploi et aux retraités. 8 millions de personnes sont concernées. C'est accessible gratuitement sur internet, évidemment, en fonction de ses compétences ou de ses besoins. Donc vous pouvez déposer une annonce et bénéficier sur cette plateforme sécurisée d'aide à la vie quotidienne, de liens sociaux. Vous pouvez transmettre vos savoirs, proposer vos savoirs et vos compétences, accompagner des jeunes ou des parcours, bref, plein de choses. Donc allez-y, c'est inédit, ça s'appelle Alliance Trade Union Pro, Trade Union Tous, Trade Union Solidaire au pluriel.fr. pour tenter de convaincre Engie, eh bien Veolia va aujourd'hui faire une nouvelle proposition. Donc le feuilleton se poursuit et je vous en parlerai mercredi. La centrale d'achat Eurelec, codétenue par Édouard Leclerc et Review, basée en Belgique, écope d'une amende de plus de 6 millions d'euros pour pratique commerciale jugée illégale par le ministère de l'Économie et des Finances et donc pour non-respect de la réglementation française relative au formalisme des négociations entre les fournisseurs et les distributeurs. Vous savez bien que, d'ailleurs, beaucoup se plaignent. En juillet 2019, le gouvernement français avait déjà réclamé plus de 117 millions d'euros à Édouard Leclerc, accusé d'avoir eu recours à l'application de mesures de rétorsion forte pour obliger ses fournisseurs à accepter les conditions posées par Eurelec. Depuis la mise en place de cette centrale, le mouvement d'Édouard Leclerc délocalise chaque année une part plus importante de ses négociations commerciales en Belgique. Autre info du jour, c'est la CNIL, qui, le gendarme donc des données personnelles, qui a publié jeudi sa recommandation sur les cookies et la publicité ciblée, en laissant donc 6 mois aux éditeurs de sites pour s'y conformer. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais vous le dire tout de suite. Mais la présidente Marie-Laure Denis a dit qu'on était donc du coup les premiers en Europe à fixer un cadre très clair. Alors la CNIL demande que tous les sites internet, eh bien, mettent maintenant un bouton en face du bouton tout accepté, un bouton tout refusé, ou une solution équivalente, au lieu de nous obliger à aller cliquer dans voir les partenaires et décocher un à un les publicités. Ça nous vous évitera d'avoir des spams. D'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous ne savaient même pas qu'il fallait faire cette manip. Donc, je répète, bien sûr, il y a les cookies génériques qu'il faut décocher si vous le souhaitez, évidemment, sur les sites. Mais il faut aussi aller voir actuellement, donc, voir nos partenaires, ce petit encadré qui souvent est mis en grisé. Donc, elle demande à ce qu'on mette maintenant sur les sites internet ce petit bouton qui s'appelle « Tout refusé ». Autre demande, et donc on a 6 mois, les entreprises ont 6 mois pour le faire. Autre demande de la CNIL, que les utilisateurs devront être en mesure de retirer leur consentement facilement et à tout moment, que de refuser les traceurs doit être aussi aisé que de les accepter. Concernant l'information des personnes, eh bien elles doivent être clairement informées des finalités des traceurs avant de consentir, bien sûr, et des conséquences qui s'attachent à une acceptation ou à un refus. Elles doivent également être informées de l'identité de tous les acteurs utilisant des traceurs soumis au consentement. Les organismes qui exploitent des traceurs doivent être en mesure de fournir à tout moment la preuve du recueil valable du consentement libre, éclairé et spécifique et univoque de l'utilisateur. Alors bien sûr, il y a quelques traceurs qui sont exemptés du recueil de consentement. C'est ceux destinés à l'authentification auprès d'un service, ceux destinés à garder en mémoire le contenu d'un panier d'achat sur un site marchand, certains traceurs visant à générer des statistiques de fréquentation ou encore ceux permettant aux sites payants de limiter l'accès gratuit à un échantillon de contenu demandé par les utilisateurs. Le délai de mise en conformité de toutes ces nouvelles règles ne devra pas dépasser 6 mois, soit au plus tard 2021. Dernière info du jour, j'aimerais revenir sur l'Azerbaïdjan qui accuse les forces arméniennes de bombarder la deuxième ville du pays et menace Erevan, la capitale de l'Arménie, de représailles militaires. C'est ce qu'a déclaré un conseiller du président azerbaïdjanais. Les autorités d'Erevan ont démenti tout bombardement visant l'Azerbaïdjan, mais les autorités du Haut-Karabakh ont dit avoir pris pour cible une base aérienne militaire à Ganja. C'est la deuxième ville de l'Azerbaïdjan avec 335 000 habitants. Elle est située à 100 km au nord de la capitale. C'est la capitale du Haut-Karabakh et à 80 km de la ville arménienne Vardenis. La Turquie soutient l'Azerbaïdjan tandis que l'Arménie a un pacte militaire avec la Russie. Le chef de la diplomatie turque s'est dit opposé à la conclusion d'un cessez-le-feu superficiel dans cette région.
Vous êtes sur IDFM, Radio Anguin, la radio du bien-être.
Voilà, on commence tout de suite notre thème du jour, c'est l'artisanat à l'honneur et notamment les entreprises d'art. Eh bien, pourquoi? C'est le premier employeur en France et c'est notre secteur de proximité. C'est l'acteur de la vie locale. Il est composé essentiellement de petites entreprises, mais c'est un géant économique. Il est présent dans tous les secteurs, l'alimentation, le bâtiment, la production, les services, et il rassemble plus de 510 activités différentes. Mais c'est aussi et surtout un savoir-faire traditionnel ou des technologies de pointe, et cela représente 1,3 million d'entreprises en France, 3,1 millions d'actifs, 300 milliards de chiffre d'affaires, 4 familles de métiers. On va en reparler dans quelques minutes parce qu'on va faire un focus sur le Val d'Oise. On a 23% de femmes, 30% ont plus de 50 ans, et en majorité, ce sont des entreprises de moins de 10 salariés. Alors en Europe, c'est 23 millions d'entreprises qui emploient plus de 80 millions de personnes pour un chiffre d'affaires de 17 000 milliards d'euros. 98% des entreprises en Europe comptent moins de 50 salariés, et 93% toujours en Europe comptent moins de 10 salariés. Dans le monde, eh bien, c'est 30% des exportateurs français qui sont des entreprises artisanales. Les métiers d'art, dans l'habitat, la décoration et l'art de la table, ou la restauration du patrimoine, ou la facture instrumentale, sont très appréciés à l'export. Alors, bien sûr, eh bien, les Français exportent en Europe, bien évidemment, mais aussi en Suisse, au Maghreb, au Moyen-Orient, en Russie, en Chine, au Japon, aux États-Unis, au Canada. Et on sait que l'artisanat français, les métiers d'art, sont très appréciés par les Nord-Américains et en Asie. C'est ce qu'on appelle le « made in France ». Et justement, pour en parler, j'ai la chance d'avoir avec moi Florence Parigot, Julie Dahan, Laurent Delol, Valérie Aubin et Yves Cogent-Dassamy. Vous êtes le directeur du développement économique de la Chambre des métiers du Val d'Oise. Alors, on va faire le point ensemble. Quels sont les 4 secteurs en Val d'Oise, plus particulièrement, qui sont représentés ?
Alors, sur les 25 000 entreprises artisanales du Val d'Oise, qui représentent 52 000 actifs, le premier secteur, c'est celui des services. Il représente la moitié de ces entreprises. On y retrouve à la fois le salon de coiffure, d'esthétique, le cordonnier, le pressing, mais également le garagiste et les entreprises de transport de personnes. Ensuite, vous avez le secteur du bâtiment, avec 35% des entreprises, où on va retrouver le plombier, le maçon, l'électricien, toutes ces entreprises donc qui œuvrent sur les chantiers, que ce soit les maisons individuelles ou rénovation principalement, hein, puisque dans l'artisanat, c'est le secteur d'activité le plus important, c'est la partie rénovation. Et puis, deux autres secteurs, donc l'alimentaire, avec 7% des entreprises, où on va retrouver nos boulangers, bouchers, charcutiers, traiteurs, la restauration rapide également, et puis le secteur de la production, 8% de ces entreprises.
Ça, on le sait moins que la production, voilà. Peut aussi, quand vous dites production, c'est production industrielle, enfin...
Alors, c'est très varié, puisque nos artisans d'art sont également dans ce secteur-là, production de pièces uniques, mais également beaucoup d'entreprises en sous-traitance industrielle. Il faut savoir que nos artisans dans ces entreprises produisent des pièces pour le secteur automobile, l'aéronautique, l'armement, donc avec des pièces très de la mécanique de précision. Et donc, on a ces entreprises qui travaillent également pour l'industrie.
Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On est donc tous toujours sous le coup de cette pandémie, la Covid-19. Quels sont les secteurs, notamment Val d'Oise, évidemment, qui ont le plus souffert ? Où en est-on dans tout ce secteur de l'artisanat ?
Alors, toutes les entreprises sont touchées à différents niveaux. Ce qu'on peut voir, c'est que le niveau d'activité, finalement, n'est pas revenu à la normale, et c'est très variable d'un secteur à l'autre. On peut voir, pour ceux qui sont le plus touchés, c'est par exemple sur nos activités de traiteurs événementiels, où là, l'activité est vraiment très faible par rapport à ce qui était fait, puisque beaucoup d'événements sont malheureusement annulés, liés à la situation. Mais sur le secteur du bâtiment, on a également une activité qui s'est ralentie. Alors, à la sortie du confinement, justement, il y avait beaucoup de chantiers à rattraper, une reprise de l'activité qui a été importante, et finalement, on constate aujourd'hui qu'on a plutôt un ralentissement sur les activités.
Donc le BTP, lui aussi, est en ralentissement ?
Est impacté également. Alors après, c'est lié également aux conditions à mettre en œuvre sur les chantiers qui ne facilitent pas la tâche, justement.
Donc les secteurs les plus touchés, je répète, c'est donc l'événementiel, bien évidemment, et les traiteurs, mais aussi peut-être l'aéronautique.
Oui, ces entreprises en sous-traitance, hein, sur le secteur du Val d'Oise, le secteur aéronautique est assez important. Et du coup, nos artisans qui produisent des pièces, finalement, aujourd'hui, tournent également au ralenti. Hein. On voit bien que les commandes diminuent. Ce qu'on fait, c'est les accompagner justement pour pouvoir envisager une nouvelle stratégie commerciale et de pouvoir diversifier finalement leur clientèle pour pouvoir attaquer d'autres marchés et éviter d'avoir une seule filière qui les alimente.
Justement, c'était ma question. Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter comme aide ?
Alors, on a beaucoup eu de contacts avec ces entreprises pendant la période de confinement. Pour beaucoup, c'était voilà une baisse de chiffre d'affaires, parfois même un chiffre d'affaires quasi nul.
Quasi nul, oui.
Et ce qui nous est remonté justement par rapport aux besoins identifiés des entreprises, c'est de pouvoir les accompagner justement sur une réflexion dans le cadre de leur stratégie commerciale et également sur la digitalisation de l'entreprise. Donc pouvoir gagner du temps dans leur fonctionnement, mais également dans la fidélisation de leur clientèle. Et c'est la raison pour laquelle on met en place prochainement un accompagnement spécifique avec un parcours croissance pour ces entreprises et donc qui sera lancé prochainement le 16 octobre par toutes les chambres de métiers d'Île-de-France.
Alors, le 16 octobre, vous lancez donc ce parcours croissance. En quoi ça consiste ? Expliquez-nous un petit peu.
Alors, on va faire un premier audit à 360 degrés pour voir, analyser la situation de l'entreprise et lui donner quelques premières préconisations. Et ensuite, on va lui faire un accompagnement individuel à la fois sur la transition numérique, également sélectionner en fait trois actions phares à mettre en place dans le cadre de la digitalisation de l'entreprise. Et puis sur le troisième volet, stratégie commerciale, donc analyser justement son fonctionnement et lui proposer également trois pistes d'action à mettre en œuvre assez rapidement pour pouvoir à la fois se démarquer de la concurrence et fidéliser de nouveaux clients.
Alors, donc toutes ces bonnes pratiques, j'allais dire, c'est un conseil gratuit. Qui peut en bénéficier ? Comment ? Expliquez-nous la marche à suivre, s'il vous plaît, Yves Cogent d'Assamy.
Alors, toutes nos entreprises artisanales, les 25 000, peuvent demander l'accompagnement de la Chambre de métiers sur ce dispositif. Alors, malheureusement, il ne sera pas gratuit, mais avec un tarif très modéré pour nos entreprises, puisque tout artisan qui demandera un accompagnement pourra, pour la somme de 320 euros, parce que la Chambre de métiers prendra en charge le reste, avoir cet accompagnement.
D'accord. Donc, Yves Cogent d'Assamy, je rappelle que vous êtes le directeur du développement économique de la Chambre des métiers du Val d'Oise. Donc là, si les 25 000 vous contactent d'un coup, ça va être la folie à partir du 16 octobre.
Oui, alors c'est rarement le cas comme ça, mais on espère qu'un maximum d'entreprises, justement, nous contacteront pour pouvoir être accompagnées.
À combien de pourcentage parmi les 25 000, vous estimez donc qu'elles ne sont pas digitalisées ? Parce que ça, vous devez à peu près savoir, je suppose.
On peut considérer qu'on a encore la moitié des entreprises, finalement, qui ont une marge de progrès assez importante sur la digitalisation.
Ah oui, donc ça représente un sacré boulot, malgré tout.
Oui.
Donc 50% sur les 25 000. Alors, quel est le rôle, finalement, de la Chambre des métiers habituellement, hors période de pandémie, évidemment ?
Alors, notre rôle, c'est d'accompagner les entreprises, les chefs d'entreprise, à toutes les étapes de vie de l'entreprise. Au moment de la création, pour tout simplement le choix de leur statut juridique, pour qu'ils soient le plus adaptés au projet qu'ils ont, les accompagner pour réaliser leur business plan, et ensuite les accompagner dans leur développement, quand ils ont besoin d'investir, d'embaucher, donc chercher avec eux notamment des solutions, des aides financières sur les investissements, et puis les accompagner sur différentes thématiques, que ce soit le numérique, le développement durable, la stratégie commerciale, le volet ressources humaines. Voilà, donc on les accompagne vraiment sur toutes les thématiques. Et puis on accompagne également les entreprises qui arrivent en fin de vie pour différentes raisons. Soit c'est le départ en retraite, puisque nos artisans également vieillissent. Et dans l'idéal, on souhaiterait que l'entreprise puisse être reprise par un nouvel artisan. Et donc, on les accompagne dans cette transmission reprise, à la fois le cédant et le repreneur. ou tout simplement parce que c'est la vie naturelle d'une entreprise de se radier au bout d'un moment, et on les accompagne également dans ces démarches. Voilà, vraiment tout au long de la vie.
Alors, si je suis une jeune ou un jeune et je veux m'installer, j'allais dire, comment je fais pour choisir entre, j'allais dire, la chambre des métiers ou la chambre de commerce? Qui fait la répartition? Comment vous faites?
Alors, c'est une répartition par rapport au code d'activité, mais pour pouvoir résumer simplement, à partir du moment où on est sur du travail manuel, de la fabrication ou de la prestation de services, et qu'on est sur une entreprise de petite taille, donc moins de 10 salariés de façon générale, à ce moment-là, c'est plutôt vers la chambre de métier qu'on va se tourner.
On se tourne vers vous, donc. Les chambres de métier sont en train de se réorganiser, j'allais dire. Comment ça se passe en ce moment au niveau donc national? Quelle va être la politique à venir?
Alors, le réseau, donc, au niveau des chambres de métier, jusqu'à présent, on fonctionnait de façon départementale, même si on avait certains services supports qui étaient mutualisés. À partir du 1er janvier 2021, nous serons une structure régionale, Île-de-France, donc les 8 départements, les 8 chambres de métier, ce qui nous permettra justement de mutualiser encore plus nos actions, d'avoir une harmonisation. Ce que je vous disais, par exemple, le parcours de croissance, c'est déjà, voilà, ça fait partie des premières actions qui seront lancées en même temps dans l'ensemble des chambres de métiers.
D'accord, donc sur toute la France, à partir du 16 octobre, c'est une opération officielle ou
sur
uniquement en Île-de-France?
Sur le parcours croissance et en Île-de-France.
En Île-de-France.
Voilà.
C'est une opération spécifique, donc Île-de-France. Et donc, vous allez multiplier, j'imagine, les opérations tous ensemble sur la région Île-de-France.
Oui.
Alors, par contre, ça veut dire que vous gardez toujours une antenne à Cergy-Pontoise et vous recevez donc les artisans du Val d'Oise à Cergy, ou là, vous allez devoir déménager? Comment ça se passe?
Non, on aura toujours notre structure, donc le siège de la Chambre de métier qui est à Cergy, et également notre antenne qui est à Villiers-le-Bel pour couvrir le secteur Est, pour avoir une proximité auprès de nos artisans. Et puis, on a une autre mission au niveau de la Chambre de métier, c'est la formation des apprentis. Donc, on a trois CFA, trois sites sur le département, et nous formons chaque année 1300 jeunes en apprentissage sur 10 métiers et 30 diplômes.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Yves Cogent-Dassamy. Je rappelle que vous êtes le directeur du développement économique de la Chambre des métiers du Val d'Oise. Alors, il y a en principe, beaucoup de salons ont arrêté. En principe, vous devez faire un salon. Enfin, logiquement, chaque année, il y avait le salon des métiers d'art.
Noël avant l'heure.
Est-ce que vous allez le poursuivre cette année? Comment ça se passe?
Alors, nous souhaiterions l'organiser. Hein. Nous sommes prêts. Et nous avons anticipé, nous avons envoyé un courrier au préfet justement, puisque vu que beaucoup d'événements sont annulés, notamment celui qui devait avoir lieu ce week-end à Enghien, nous avons préféré anticiper et adresser au préfet un protocole sanitaire spécifique, renforcé, pour pouvoir organiser ce salon, parce qu'on sait très bien que nos artisans métiers d'art et savoir-faire ont besoin de cette visibilité, il en va de la survie de leur entreprise.
Bien sûr. Alors justement, j'imagine que vous pensez à d'autres actions commerciales pour que les artisans soient plus visibles, autres que les salons. Quelles sont vos idées à venir? Est-ce qu'on peut avoir un petit secret?
Alors, on a déjà ce projet qui est assez innovant sur Enghien avec le Concept Store, où vous allez actuellement trouver 34 artisans présents. Et l'idée pour nous, c'est de pouvoir démultiplier finalement les boutiques éphémères. Et donc, nous avons un partenariat avec le centre commercial des Trois Fontaines à Cergy. Et j'irai cet après-midi justement visiter une boutique pour voir si nous pouvons mettre en place pour la fin d'année une boutique éphémère pour nos artisans d'art et leur donner cette visibilité pour pouvoir être au contact des clients.
Alors c'est assez à la mode, les boutiques éphémères, en fait, on en voit de plus en plus. Est-ce que vous pensez que c'est un nouveau concept qui peut perdurer?
Oui, en fait, on est sur une action qui est co-construite avec nos artisans d'art. Ça ne fonctionnerait pas si eux n'y participaient pas. Ils assurent des permanences dans l'organisation, dans les plannings, les ouvertures, fermetures, la gestion de la caisse. Et donc, on voit bien que ça nous permet de mobiliser sur des projets de plus grande ampleur et grâce à nos artisans d'art.
Et puis, ça permet peut-être de répartir les frais sur plusieurs artisans. Donc, ça coûte moins cher, j'imagine,
bien sûr,
pour eux.
Bien sûr, l'idée, nous, c'est d'avoir une offre clé en main pour eux qui coûte la moins chère possible. Voilà.
Et il y a un panier moyen finalement pour participer à des boutiques éphémères, ou bien est-ce qu'il y a un budget moyen qu'on peut donner?
Alors, sur un projet, par exemple, comme les Trois Fontaines, on est sur une participation de l'ordre entre 100 et 150 euros la semaine.
Oui, donc c'est donc très, très raisonnable. Et on peut donc, en tant qu'artisan, on peut choisir ses semaines, dire oui une semaine et puis ne plus revenir du tout ou revenir trois mois plus tard.
Bien sûr, on peut réserver au minimum pour 15 jours ou on peut être présent sur l'ensemble de la durée qui peut être de 2 à 3 mois.
Voilà, ça dépend de la surface de la boutique éphémère, j'imagine.
Oui.
Merci beaucoup, en tout cas, pour ce tour d'horizon du Val d'Oise au niveau de l'artisanat, Yves Cogent-Dassamy. Peut-être en conclusion, on va rappeler des dates de votre prochain salon, qui, j'espère, va pouvoir être autorisé par la préfecture.
Oui, alors notre salon Noël avant l'heure, donc qui en sera à la 12e édition, ça sera du jeudi 19 au dimanche 22 novembre 2020.
Merci beaucoup et donc retenez donc bien ces dates, fin novembre, mi-novembre plutôt, donc les métiers d'art à Cergy, à la chambre de métiers,
hein,
c'est bien ça?
C'est ça,
voilà, comme chaque année, Noël avant l'heure. Merci Yves Cogent-Dassamy d'avoir fait ce tour d'horizon avec nous ce matin. Je vous propose tout de suite de partir entendre un métier qui se perd, qui n'existe presque plus. Heureusement qu'il y a des passionnés. Et donc, je suis allée à la rencontre de Valérie Aubin, car elle fait de la broderie au crochet de Lunéville et une brodeuse d'art à qui l'on peut demander du sur-mesure. On l'écoute.
Alors, je suis quelqu'un de très manuel depuis toujours. Ma première passion a été la peinture. Et je brodais au point de croix, enfin toutes choses banales comme beaucoup de gens. Et puis un jour, j'ai découvert que l'école Le Sage faisait des séances de pour découvrir la broderie haute couture. Et ça m'a intéressée. Et donc je l'ai fait. Et puis là, je suis tombée amoureuse. Voilà.
Donc, vous avez fait combien de temps que vous brodez
J'ai fait les cours, j'ai commencé les cours, on va dire, en 2010, 12.
Donc, ça fait presque 10 ans que vous faites de la broderie. Alors, oui. On apprend à broder sur quoi, comment, avec quelle matière, comment ça se passe? Expliquez-nous un petit peu.
Alors, on peut broder sur n'importe quelle matière, mais moi, pour créer mes bijoux ou pour faire tout autre travail, je travaille sur de l'organza, qui est un travail qui est un tissu transparent, parce qu'il faut savoir
extrêmement fin déjà.
Fin, voilà, et qui est transparent, et parce qu'il faut savoir que quand on travaille au crochet de Lunéville, on travaille quand on pose de la perle ou de la paillette, on travaille à l'envers, donc on ne voit pas le travail qu'on le fait. Alors, surtout si on a un tissu opaque. Donc, il faut avoir une grande maîtrise de ce qu'on fait et il faut retourner son métier régulièrement. Et quand les métiers sont trop grands, très grands, on est obligé de se mettre à quatre pattes et regarder en dessous. Voilà.
D'accord, parce que les métiers ne peuvent pas se retourner.
Si, en général, si, mais que s'ils ont des grands, grands ouvrages, ils ne peuvent pas forcément le retourner, oui.
Bien sûr. Et alors du coup, j'imagine, enfin, je sais pas, mais j'imagine que c'est long d'apprendre à broder.
Alors, c'est long. Suivant
sa passion,
les personnes, il y a plus de facilité ou pas. Hein. Mais c'est le crochet de Lunéville qui est particulier et qui est pas facile au départ. Et là, il faut vraiment prendre des cours.
Alors, vous parlez du crochet de Lunéville. Expliquez-nous, et notamment
alors, le
même
crochet
pour moi
de Lunéville,
et pour les
c'est...
jeunes. Qu'est-ce que c'est comme est-ce que c'est ce petit crochet tout petit?
Tout petit, très fin, qui a au bout comme un hameçon de pêcheur.
Voilà.
Et c'est donc, aussi fin, ouais.
Vous ne travaillez, vous, en broderie, qu'avec ce crochet ou c'est principalement avec ce crochet?
Je travaille avec ce crochet et à l'aiguille. Tout le travail, parce que tout ne peut pas se faire au crochet.
Parce qu'en broderie, on travaille avec des perles, avec des fils. Oui. Quelles sont les différentes matières que vous utilisez pour broder?
Alors, y a donc les perles, les paillettes, les rubans, toutes formes de rubans. Je travaille aussi le cuir, les cordons en cuir. J'aime beaucoup intégrer le cuir, qui est une matière assez noble, enfin que j'apprécie. Et puis, les fils d'or, les fils de soie, les fils de coton, enfin tout, les soutaches, les, enfin, on peut vraiment utiliser tout ce qu'on veut. Alors, on ne peut pas utiliser le crochet de l'univie pour tout, mais après, il y a l'aiguille. Hein. C'est, de toute façon, les broderies de haute couture, c'est un partage entre le crochet de l'univie et les travaux à l'aiguille.
Alors, vous faites partie de ce qu'on appelle les artisans d'art, évidemment. La broderie, c'est votre passion. Est-ce qu'en même temps, ça vous permet d'en vivre, ou est-ce que ça, c'est un hobby juste complémentaire à votre activité professionnelle?
Alors, ça ne me permet pas de vivre. J'ai essayé au début, malheureusement. Et puis, comme j'étais une maman célibataire, j'ai fait un choix. J'ai préféré la sécurité pour assumer mon travail de, enfin, mon rôle de maman. Et puis, aujourd'hui, dès que je pourrai, j'espère me consacrer entièrement à ça.
Donc, vous pensez arrêter votre métier d'architecte pour vous consacrer à la broderie?
Déjà, je suis en fin de carrière, on va dire. Enfin, pas en fin de carrière, mais bon, j'y m'y approche. Et puis, comme ma fille a pris son envol, je vais me trouver plus libre. Et donc, pourquoi pas? Peut-être pas dans l'immédiat, mais assez rapidement.
Alors, actuellement, on peut trouver certains de vos objets à la boutique des artisans d'art à Enghien-les-Bains. Qu'est-ce que vous proposez à la vente en ce moment? Qu'est-ce qu'on peut vous... Et puis, deuxièmement, est-ce qu'on peut vous commander des choses particulières? Imaginons, on a une belle robe qu'on veut faire broder. On peut vous contacter en venant peut-être à la boutique à Enghien pour vous demander des choses à broder, ou comment ça se passe?
Tout à fait. Oh, oui, il n'y a pas de problème. Je peux faire sur commande, réaliser toutes sortes de choses que la personne souhaite. Aujourd'hui, à la boutique, il y a exclusivement des bijoux, tous différents types de bijoux en broderie. Après, je peux aussi faire ces bijoux dans un autre coloris ou enfin vraiment faire quelque chose de très. Alors, il faut savoir que je fais des toutes petites séries. C'est jamais le bijou, il est rarement pareil. Très rarement.
Bien sûr, c'est exclusif en fait.
Voilà, exactement. Mais je peux encore faire des particularités suivant les demandes. Donc je peux réaliser sur commande, il n'y a pas de problème.
Alors au niveau des bijoux qu'on peut acheter actuellement, qu'est-ce que vous nous proposez et à quel tarif?
Alors écoutez, vous avez des bagues. Le premier tarif, ce sont les bagues à 32 euros, et puis ça monte jusqu'à 85 euros pour un collier avec des apprêts. Alors ce qu'on appelle les apprêts, c'est les fermoirs, tout ce qui permet tout le complément à la broderie, qui sont soit en argent, soit en plaqué or. Et toutes les finitions arrière des colliers et des bracelets sont en cuir.
D'accord. Et donc là, on a bien compris que les prix, je répète ce que vous venez de dire, donc les bagues aux alentours de 32 euros, et pour les colliers, il faut compter entre 85 à 100 euros, j'imagine, ça dépend du collier.
Oui, ça dépend du collier, voilà. du travail de la broderie. Quoi.
Bien sûr. Est-ce que vous travaillez également avec les maisons de haute couture? Parce qu'il n'y a pas
beaucoup de brodeurs
en France. Je suppose que votre expertise doit les intéresser. Est-ce que c'est un des contacts que vous envisagez de prendre quand vous aurez un peu plus de
Peut-être,
temps?
Peut-être, mais dans l'immédiat, non, parce que déjà, mon travail plus ma broderie, ça me prend déjà tout mon temps. Donc, j'ai pas vraiment beaucoup de temps pour rechercher davantage. Mais le jour où je ferai que ça, pourquoi pas.
Qu'est-ce qui vous a donné l'idée, l'envie, j'allais dire, au départ? Qu'est-ce qui vous a poussé? Puisque vous disiez que vous faisiez de la peinture.
Oui. Je vous dis, j'étais très, très manuelle. Hein. Je faisais plein de travaux à l'aiguille. Je sais aussi bien tricoter, crocheter, enfin faire tout un tas de choses. Et vraiment, là, c'est surtout ce côté, c'est toutes ces belles matières, ce côté sublime et un monde merveilleux et magique qui m'a complètement charmée et que j'ai voulu apporter aux gens, enfin, donner envie. Aux personnes, quoi. C'est ce côté-là. Et à la boutique, je fais justement de temps en temps je montre le travail au crochet de Lunéville.
Donc on peut vous voir travailler en direct si on vient donc rue du Général de Gaulle à Enghien.
Oui, tout à fait. Alors il y a un programme qu'on peut voir sur le site de la boutique. Il y a tous les alors j'avoue que je sais plus le prochain. Il est en octobre, il y en a deux en octobre.
Ok, donc on regardera effectivement. Donc deux dates en octobre où on peut vous voir travailler
en bijoux. Et quand je fais des salons ou des marchés, j'essaie toujours de travailler sur place parce que les gens ils sont très intéressés et ils s'imaginent pas du tout le travail que ça peut représenter. Voilà.
Bien sûr, bien sûr. Est-ce que avec cette pandémie, ça vous a retardé dans l'activité, j'allais dire plus commerciale au niveau
des
salons,
oui,
et d'expositions, il n'y a rien qui se passe en ce moment, comment faites-vous?
Non, il n'y a rien du tout, mis à part la boutique, il n'y a rien d'autre. Hein.
Donc finalement, heureusement qu'il y a encore les commerces, la boutique qui reste ouverte, parce que vous n'avez pas de salon en perspective?
Prochainement, non, le prochain, ils sont en novembre.
En novembre.
Alors, de toute façon, il y en avait un en octobre, mais il a été annulé, donc...
Oui, on avance avec la pandémie en ce moment. On voit bien que
c'est compliqué.
Au moins au jour le jour même, je veux dire.
Ouais.
Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin en direct, Valérie Aubin.
Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie aussi.
Je rappelle que vous faites de magnifiques.
Voilà, nous étions donc à la découverte de cette première artiste d'art, Valérie Aubin, que j'ai interviewée et qui fait de la broderie au crochet de Lunéville. Donc, vous avez bien entendu, vous pouvez aller la voir travailler sur place. Donc, la boutique s'appelle C'est Vrai, c'est rue du Général de Gaulle à Enghien. Elle a deux dates en octobre, faut aller sur le site internet et c'est au 16 rue du Général de Gaulle. Deuxième artiste que j'ai voulu mettre à l'honneur aujourd'hui, c'est Florence Parigot. Alors, Florence, vous concevez et fabriquez un accessoire de bijoux. Ceux qui nous regardent en direct via Facebook peuvent le voir. Vous le portez autour du cou. Donc, expliquez-nous un peu vous allez nous le décrire, bien sûr, mais avant, comment c'est venu cette idée de faire un accessoire de mode pour les lunettes, justement, puisque c'était pas votre premier métier, finalement?
Non, tout à fait. Alors, déjà, artiste, c'est un bien grand mot. Je suis plus créatrice d'un concept. En fait, j'ai passé la plus grande partie de ma carrière dans l'industrie pharmaceutique, où j'étais déléguée vétérinaire. Donc c'est un métier commercial, c'est un métier d'itinérant, c'est un métier où quand on va voir un client, il faut ressortir avec une commande, il y a énormément de pression.
Ah, vous êtes obligée, on vous demande de ressortir avec une commande pour chaque visite de vétérinaire.
Bien sûr, c'est pas toujours possible, mais il y a énormément de pression.
Donc, faut être dans un bon laboratoire avec des bons produits si on veut avoir une commande, j'imagine.
Voilà, exactement. Et puis, je me suis rendu compte aussi que la vente, c'était aussi beaucoup une question de présentation. Il faut avoir un objet. Il faut vendre un produit, qui a fait ses preuves, un produit attractif. Mais il faut aussi savoir le présenter. Hein, si on a un bon produit qu'on ne sait pas le présenter, ça le fait pas.
Ça le fait pas. Donc comme quoi ça joue. Le marketing est important.
C'est pas pour rien que les grosses entreprises y mettent des fortunes. C'est tout à fait justifié.
Donc c'est un bien d'investissement. C'est ce que je répète souvent au micro, mais peu d'entreprises, beaucoup le laissent de côté, ce qui est dommage. C'est ça que vous voulez dire,
dommage.
En fait.
C'est très dommage. C'est absolument indispensable quand on veut développer un produit. Et donc j'étais dans un gros labo pharmaceutique. En ce moment, depuis quelques années, les laboratoires se rachètent les uns les autres. Et donc du coup, j'ai fait, comme beaucoup, partie d'un PSE à l'âge de 55 ans.
Donc un plan social.
Donc, voilà, un plan social. L'avantage c'est qu'on avait des très bons syndicats, donc on a été très bien défendus. Et donc j'ai choisi de quitter. J'aurais pu rester. J'ai choisi de quitter l'entreprise. J'ai surtout choisi de quitter un schéma de hiérarchie qui me convenait plus à mon âge. Voilà, c'était.
C'est-à-dire qu'à 55 ans, vous vous êtes dit, on fait un bilan sur sa vie et finalement faut faire des choix.
Voilà, alors faut savoir qu'à 55 ans, j'avais fini de payer ma maison, je n'avais pas de dette. Donc déjà ça c'est un atout énorme. Et grâce à ce plan, j'avais la possibilité de créer une entreprise avec une aide substantielle. Donc, l'idée du bijou lunette, je l'avais déjà eue auparavant. Alors, je vais vous expliquer ce qu'est le bijou lunette. Mais j'ai choisi effectivement de quitter l'entreprise, de bénéficier de toutes les aides que mon entreprise a mis en place pour me lancer seule. Et donc, je me suis dit, ben voilà, c'est cette idée, je l'avais eue déjà il y a quelques temps. Et je me suis dit, c'est l'occasion de lancer cette idée. Alors, le bijou lunette, c'est quoi? C'est un accessoire de mode qui est une solution à un problème qui concerne beaucoup de monde, notamment après 40 ans quand on a besoin de ses lunettes, qu'on peut plus lire les étiquettes sans ses lunettes.
Ah oui, malheureusement, on a tous la vue qui baisse à partir d'un certain âge.
Et donc ce qui arrive, enfin moi ce qui m'est arrivé, c'est que je cherchais mes lunettes sans arrêt, c'est pénible, on perd du temps, on s'énerve soi-même en se disant mais c'est pas possible. Et donc j'ai dessiné un anneau. Alors moi j'aime bien les formes épurées, j'aime bien les formes simples, donc j'ai dessiné un anneau tout simple qui est légèrement incurvé et dans lequel on glisse sa branche de lunettes, voilà, et qu'on va porter autour du cou, voilà. Donc c'est un accessoire, mais finalement quand on n'a pas ses lunettes, ça peut aussi être un joli bijou.
C'est un joli décor de cou qu'on met autour du cou.
Exactement. Donc moi personnellement, c'est pas un bijou que je porte tous les jours, mais c'est un bijou que je porte systématiquement quand je prends les transports en commun, quand je vais faire mes courses, quand je suis à la boutique d'Anguin, où là j'ai sans arrêt besoin de mettre mes lunettes et de les retirer. Et plutôt que de les poser quelque part où je suis sûre, la boutique est grande, que je ne vais pas les retrouver, je les ai autour de mon cou, elles sont vraiment en sécurité. Puisque l'anneau est vraiment conçu pour les tenir, donc même si je me penche, elle reste en sécurité. Les verres ne s'abîment pas puisqu'ils sont sur le dessus.
Oui, donc du coup ils sont pas rayés.
Voilà, par rapport au cordon de lunettes traditionnel où effectivement les verres sont à plat, donc forcément quand on se penche, ça peut se rayer. Donc voilà, et alors bien sûr avant de me lancer, j'ai fait une étude de marché, parce qu'il n'y avait pas des gros investissements, mais il y avait quand même un petit peu d'investissement à la base, et je me suis très vite rendu compte que oui, les gens ne connaissaient pas le produit. Les gens ne connaissent, et d'ailleurs, les gens ont toujours beaucoup de mal à percuter ce que c'est, les gens pensent que c'est un bijou. J'ai beau avoir mis une paire de lunettes, j'ai beau avoir mis un panneau, mais où sont vos lunettes? Vous ne cherchez plus vos lunettes. Il y a énormément de gens qui ont du mal à percuter. En même temps, par exemple, dans la boutique d'Anguin, il y a tellement de belles choses partout, les regards sont tellement sollicités que voilà, les regards volent sur les
gens. C'est vrai qu'il y a beaucoup de belles choses et du coup, c'est là où il y a l'importance du marketing, comme vous disiez tout à l'heure.
Exactement. Et voilà. Et ça, pour un produit comme le mien, c'est compliqué parce que moi, je ne vends pas un bijou. Je vends un accessoire de mode. Donc, l'avantage, c'est qu'au fur et à mesure, j'ai réussi à m'améliorer. Bon, c'est pas encore ça, mais j'ai réussi à améliorer la présentation pour faire en sorte que les gens percute un peu mieux, mais encore samedi à la boutique, j'ai été voir une cliente qui regardait mes produits et je me suis rendu compte qu'elle n'a pas compris que c'était à quoi, enfin, elle n'a pas compris le bijou de lunettes. Alors LBDL, ça veut dire le bijou de lunettes.
Alors justement, Florence Parigot, vous avez conçu donc cet anneau magique qui peut être donc tenu par du métal ou par des pierres dures semi-précieuses.
Des pierres semi-précieuses.
Alors en quoi les faites-vous? Qu'est-ce que donc le métal, on voit très bien ce que c'est, mais quel type de pierres dures utilisez-vous?
Alors tous les types de pierres naturelles qui sont je les choisis par rapport à leur qualité, par rapport à leur couleur, leur reflet, leur toucher. Je suis très tactile, donc c'est vrai que c'est important, c'est froid, c'est lisse, c'est doux. Ça me plaît beaucoup. Donc voilà, je l'ai choisi tout simplement par rapport à ça. Il se trouve que les pierres naturelles sont émettrices et réceptrices d'énergie. Hein, vous savez qu'elles sont utilisées dans l'industrie. Par exemple, le quartz, hein, dans les montres, qui émet des vibrations. Alors, je suis absolument pas lithothérapeute. Mais c'est vrai que ce côté un peu magique m'attire, et c'est vrai que j'aime toucher les pierres, ça m'apaise, ça me détend, et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de clientes qui me disaient la même chose.
Et Florence Parigot, alors combien faut-il compter pour acheter un cordon, enfin un accessoire de mode, donc ce fameux collier porte-lunettes? Quel budget faut-il, quelles sont les moyennes, quels sont les différents prix?
Voilà, alors j'ai quatre gammes. Ça commence au cordon de cuir. Ensuite, on a le cristal de bohème que je vais vous montrer, qui sont des perles. Alors, le cordon de cuir, il est à 39 euros, à peu près.
Très raisonnable comme prix.
Alors, faut savoir que cette pièce-là, elle est industrialisée.
La pièce métallique. J'allais vous poser la question, qui fait la pièce métallique?
Alors, une petite société dans le sud de la France donc me produit ces pièces. Elles sont gravées à mon logo, LBDL. Elle me les produit en laiton. Et ensuite, je les fais galvaniser. Je suis désolée pour le micro, j'ai
tout
vraiment
bien,
pas l'habitude.
Pas.
Et ensuite, je les fais galvaniser chez un doreur. Alors pour ces pièces-là, elles sont galvanisées à Lyon, et pour tous mes apprêts, donc les apprêts, c'est les petits clous, les anneaux, les mousquetons, mes apprêts sont galvanisés chez un doreur parisien.
Et est-ce que ça a pris beaucoup de temps de trouver l'atelier qui fabrique cette petite pièce mécanique finalement?
Énormément. Ça a pris énormément de temps. Quand j'ai commencé cette activité, je ne connaissais personne. Alors effectivement, j'ai bien eu une aide sur une aide administrative, mais une aide sur ces pièces-là, sur la découpe laser, la découpe chimique, je n'y connaissais rien. Donc ça a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps.
Et vous n'auriez pas pu trouver en Val d'Oise un atelier de mécanique?
Alors, j'ai trouvé en fait dans l'Oise, mais bon, j'ai eu un gros problème avec mon fournisseur qui en fait m'a fait des pièces qui contenaient du nickel. Voilà, sachant pertinemment que la législation ne l'autorise pas pour les pièces.
Vous n'en vouliez pas, bien sûr.
Donc, vous voyez, quand j'ai commencé, je vais produire un certain nombre de pièces qu'il a fallu que je retire du marché en urgence et il a fallu que je retrouve quelqu'un d'autre pour me faire ces pièces. C'est compliqué parce que, donc comme je vous dis, c'est industrialisé. Moi, je peux pas faire des milliers de pièces, c'est impossible. Donc ça a un coût. Donc voilà, c'est
bien sûr, ça coûte plus cher de faire des petites quantités
exactement,
que de faire de la grande.
Exactement. Donc entre la conception, en fait, le dessin de la pièce et le jour où je reçois vraiment ma pièce que je peux la mettre sur le marché, il s'écoule quand même un délai de 6 mois. Donc pour gérer des stocks, c'est compliqué.
Et pour trouver donc le fabricant de cette fameuse pièce, combien de mois vous a-t-il fallu?
Alors, ça a été assez rapide. Ça a été assez rapide. Je l'ai rencontré à l'occasion d'un salon. Donc,
c'est vous qui avez été sur un salon ou bien c'est lui?
Non. C'est moi qui étais fouinée sur un salon.
Alors, où êtes-vous allée? Quel salon?
Alors, je
tout.
Suis allée à Bijorka.
Carrément. Vous êtes allée au salon du bijou fantaisie, en fait, tout simplement.
Exactement.
Donc, comme quoi c'est utile, les salons professionnels,
comme
vous en êtes la preuve.
Utile. Comme quoi, et surtout, il se trouve que ce fournisseur-là, je l'avais rencontré auparavant sur Internet également. J'ai fait beaucoup de recherches sur Internet. Heureusement qu'on a Internet.
Ça facilite la tâche. Donc, pour finir, si vous voulez bien, Florence Parigot, on revient aux différentes gammes. Donc, ça commence avec le cuir, vous nous l'avez dit, à 39 euros.
Voilà, 35,
ensuite,
39 euros. Après, le cristal de bohème. Donc, c'est des petites perles de cristal de bohème que je monte sur clou. Alors, ça a un effet un petit peu rétro, rigolo, un petit peu décalé, qui me plaît beaucoup. Donc là, on est à 45 euros. Après, on a les chaînes, donc tout ce qui est chaînes, en palladium. Donc, palladium, c'est un traitement palladium, hein. Donc pareil, c'est totalement anénergique, ça fait partie des métaux précieux. Donc toutes mes
absolument,
chaînes.
Absolument, ça fait partie des métaux précieux.
Toutes
peu
mes
de gens le savent.
Toutes mes chaînes sont à 49 euros. Et après, on a les bijoux.
Et alors là, il y a toutes les mailles, parce
bijoux.
Que moi je connais votre gamme, il y a toutes les mailles dans les chaînes, il y a des maillons larges, il y a des maillons tout petits.
Exactement, il y a des maillons pour les hommes, la chaîne gourmette.
Voilà.
Hein, plus
pour
les hommes.
On peut avoir une chaîne, deux chaînes en même temps.
Exactement, alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est interchangeable. C'est-à-dire que c'est ça l'astuce. J'ai deux mousquetons sur l'anneau de manière à pouvoir changer. C'est vrai que le cordon en cuir est assez sportwear. Ça, là, sur un bijou en apatite, celui-là plus argent, on est déjà plus sur du bijou. Donc on peut changer. Cette pièce reste toujours la même et j'en ai fait une seconde qui est gravée tout autour de l'anneau. Qui est gravée.
Donc la pièce ronde qui permet de mettre la branche de lunettes.
Exactement. Donc j'en ai fait une deuxième et j'ai d'autres dessins. Voilà, je vais essayer de développer avec d'autres dessins, d'autres modèles.
Merci beaucoup Florence Parigot. Donc encore beaucoup de travail en communication, j'imagine, pour vous faire connaître.
Exactement.
Mais en attendant, on peut vous retrouver à la boutique C'est Vrai à Enghien. Et puis sans doute peut-être au salon, vous allez faire le salon avec la Chambre des métiers de l'artisanat du Val d'Oise.
Alors bon, là pour l'instant rien n'est sûr, donc rien je n'est peux sûr. Pas m'engager là-dessus.
Voilà, on attend de savoir si le salon va être maintenu ou s'il va être annulé par le préfet.
Exactement.
Merci beaucoup Florence Parigot.
Vous êtes sur IDFM, Radio Enghien, la radio du bien-être.
On poursuit notre découverte des artisans d'art et cette fois avec Julie Dahan. Alors, bonjour. Julie, vous êtes toute jeune.
Oui.
On peut vous demander votre âge du coup. Vous avez
26 ans.
26 ans, voilà. Et vous avez voulu être artiste verrier. Et donc, ça aussi, c'est un métier extrêmement rare. C'est pour ça que je suis ravie de vous avoir au micro ce matin. Expliquez-nous un petit peu donc ce travail de vitrail ou de luminaire. D'ailleurs, il y en a un à côté de nous, de luminaire. Vous faites aussi de la restauration depuis 2017. Mmh. À quel âge, comment avez-vous choisi ce
métier,
cette voie finalement?
Alors, j'ai commencé déjà toute petite à dessiner. Donc, pour moi, c'était assez une révélation. Il fallait que je continue dans l'art.
Donc, pour vous, il n'y avait pas d'autre choix toute votre
oui.
Quand vous étiez au collège?
Oui, oui. Bah, déjà, bien que l'école, ce n'était pas forcément ma tasse de thé. Je dessinais beaucoup et le fait déjà de créer à l'âge de 16 ans à peu près, donc au collège, je commençais à créer pas mal de bijoux. Donc ça, c'était aussi un métier assez, comment dire, un peu technique et manuel. Donc il fallait que je reste là-dedans. Donc une fois sortie du collège, j'ai fait des études dans le vitrail, donc Lucas de Neuhou. J'y ai passé 6 ans. Donc j'ai commencé par un CAP art et technique du verre, ensuite par en 2 ans.
Donc là, vous aviez quel âge, le CAP?
J'avais 16 ans.
Donc c'est en troisième, en fait, à la fin de la troisième.
Juste après le collège, voilà, j'ai commencé. Donc voilà, comme je disais, un CAP en 2 ans, arrêt technique du verre, un BMA, donc brevet des métiers d'art en peinture sur verre et vitrail, toujours en 2 ans. Et après, une formation complémentaire en peinture sur verre. Donc là, c'est plus approfondi comme technique. Et c'est une très belle option sur l'art du vitrail.
Alors, où avez-vous fait ces formations?
Donc, cette formation, je l'ai faite sur Paris, dans le 5e arrondissement de Paris. Suite à cette longue étude que je n'ai pas vue passer parce que je me plaisais beaucoup, j'ai rencontré un artiste qui s'appelle Gilles Audoux, qui est un artiste aussi verrier, avec qui je me suis tout de suite entendue en fait à la suite d'un stage, mon tout dernier stage d'ailleurs de ma formation. Et ensuite, on a commencé à travailler ensemble sur plusieurs chantiers, notamment en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, dans des chapelles, vers Saint-Cadreux. Voilà. C'était très sympa. Puis cet artiste aime beaucoup transmettre l'art.
Donc il transmet sa passion,
voilà,
en fait.
Voilà, exactement.
Et donc son savoir-faire.
Voilà, bien que je savais déjà quand même pas mal de techniques dans le vitrail, lui, ce qui m'a surtout transmis, c'était le dessin aussi. Donc j'avais peut-être pas mal de petites lacunes, bien que quand même que je m'en sortais.
Mais on apprend toujours,
voilà,
toute sa vie, de toute façon.
Voilà. Et cet artiste est vraiment génial. Il a une gentillesse incroyable. Donc c'est par la suite après que j'ai commencé à créer mon style de vitrail en luminaire et en vitrail traditionnel.
Alors justement, vous nous avez apporté un luminaire aujourd'hui. C'est un luminaire que vous avez fait pour une raison particulière dans le cadre de vos études ou c'est un luminaire récent?
Pas du tout. Il y avait plusieurs expos déjà. On voulait déjà créer ce concept en fait de mélanger, enfin associer le béton brut avec la légèreté du verre. Et déjà que je suis une grande fan des cives, ce que l'on peut voir en fait, qui est associé au verre imprimé. Voilà, ce sont des pieds de verre. Donc, j'associe beaucoup les scies parce que je trouve que ça donne un effet, ça magnifie en fait la lumière, ça lui donne des ondes incroyables. Et donc après, ce que j'aime bien, voilà, comme je disais, c'est associer le brut et la légèreté avec les élégances des courbes interprétées par le Tiffany de cuivre.
Ça s'appelle un Tiffany, le cuivre voilà, qui entoure oui, le verre.
C'est une technique associée au vitrail que l'on retrouve déjà d'il y a 19e siècle, je dirais. Donc moi, j'associe cette technique voilà, parce que ça donne une certaine élégance à la lampe. Pas une lourdeur comme le plomb comme on voit bon, bah, dans les vitraux, certes, mais j'aime beaucoup cette technique.
Alors, est-ce que donc vous continuez à rénover des vitraux ou bien du vitrail ou bien est-ce qu'en ce moment vous vous consacrez surtout aux lampes
Je
aux
me
luminaires.
Consacre aux deux.
Aux deux.
Voilà, je sors d'un chantier de restauration assez gros à Chennevières-sur-Marne, donc c'est dans le 94. L'église Saint-Pierre, donc il y a eu pas mal de petites restaurations, notamment une petite rosace au niveau du portail, ainsi qu'un vitrail aussi du XVIe siècle. Voilà.
Donc c'est sympa de travailler sur
oui,
la restauration
très,
du XVIe siècle.
Très très sympa, puis on fait de belles rencontres aussi sur les chantiers, parce que sur les chantiers publics et donc du patrimoine, inscrit au patrimoine, donc on rencontre des compagnons, voilà, donc on fait des très belles rencontres et des contacts aussi.
Alors du coup, pour que vous puissiez poursuivre votre activité, vous devez vous référencer. Comment vous vous faites référencer pour pouvoir faire des chantiers publics, justement?
Alors,
est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes variés comme vous? Comment
oui,
ça se passe?
Oui, il y a quand même pas mal d'artistes. Après, je fais aussi ma communication sur Facebook, sur le site internet aussi. On s'est associé avec Gilles donc sur son site internet. Puis après, voilà, on connaît quand même pas mal de contacts, notamment aussi des architectes du patrimoine, donc qui nous fournissent et qui nous appellent aussi lorsqu'il y a des chantiers, des appels d'offres. Voilà. Donc ça fait partie de notre réseau de chantiers.
Parce qu'au départ, quand on est artiste comme vous, Verrier, les appels d'offres, c'est pas tout à fait ce qu'on a envie de faire.
C'est difficile, oui. Donc c'est une chance, je tiens à mettre un point là-dessus, c'est une chance que j'ai rencontré M. Gilles Audoux, voilà.
Vous a appris à répondre à tout ça.
Oui, en fait c'est une association hein, quelque part. Lui, moi je je suis un, parce que bon il est un peu âgé maintenant, mais je suis par exemple ses jambes lorsqu'il s'agit de monter par exemple aux échafaudages. J'exagère un peu. Et puis
voilà, vous répartissez la tâche
voilà,
selon
exactement.
L'ardeur. Bien, évidemment,
ce que
c'est
je
normal.
Tiens à préciser aussi, c'est que moi je fais plus de peinture sur verre que lui par exemple serait plus au montage de vitrail. Voilà, on se répartit les tâches. Et puis maintenant il commence à me laisser plus en plus la main, notamment Chennevières-sur-Marne, c'est moi qui ai dû gérer toute seule tout ce qui est même paperasse.
Qu'est-ce qui est difficile quand on travaille le verre?
Ce qui est difficile, c'est de ne pas se couper déjà. Et donc après, ce qui est peut-être difficile aussi, c'est la technique, savoir aussi s'arrêter dans les courbes, ne pas trop faire compliqué, parce que le verre, ça se casse, il y a aussi des sensibilités. Après, ce qui est peut-être aussi la difficulté en plus, c'est peut-être aussi de savoir bien gérer les cuissons, au niveau des cuissons. Voilà. Donc, ça peut être aussi en fusing. Je fais aussi pas mal de bijoux. Voilà, je vous en ai apporté un.
Alors, vous avez autour du cou un bijou jaune. Et vous nous apportez une lampe. Évidemment, c'est une lampe avec un carré de béton sur lequel est enfoncé, j'allais dire, oui, du verre. Donc ça, tous nos auditeurs pourront aller sur Facebook et sur notre chaîne YouTube pour
et
voir.
Et la boutique, c'est vrai.
Et dans la boutique, bien sûr, ça, on va le redire tout à l'heure. Mais d'abord, vous avez un collier autour du cou et vous faites donc des bijoux en verre qu'on peut porter. Alors, autour du cou, ailleurs aussi, vous faites,
alors,
à part les colliers, qu'est-ce
que
vous proposez?
En bague, en boucle d'oreille et en collier. Une bracelet est encore une option à travailler parce que généralement, le poignet, il y a pas mal de contacts avec les les meubles, enfin pas mal de choses.
Donc, oui, donc ça peut, casse le verre.
Voilà, ça peut se casser.
Donc c'est plutôt, ou alors peut-être la cheville, vous pourrez peut-être nous inventer quelque chose pour la cheville.
Peut-être.
Faudra qu'on attende. Bah... Comment, quels sont les tarifs, même question qu'à Florence Parigot avant. Julie Dahan, donc vous êtes artiste verrier, quels sont les tarifs, comment ça se passe? On vous appelle, on vient vous voir à la boutique C'est vrai à Enghien pour vous demander ce qu'on veut ou bien...
Selon la technique et le temps de réalisation, voilà, il y a une fourchette de prix. Déjà, en partant par les bijoux, ça peut aller de 15 euros à 25 euros. Et pour les lampes, par exemple, ça peut aller de 50 euros à 600 euros.
Est-ce que votre métier donc d'artiste verrier vous amène à voyager partout en France ?
Alors oui, comme je disais, nous sommes allés en Bretagne avec Gilles Audoux.
Votre associé.
Voilà, mon associé. On est allé aussi à Aubrive, donc pareil, chantier, petite chapelle, voilà. Donc après, il y a aussi, pour ma part, des concours que j'ai fait il y a quelques années maintenant, en vitrail, dans la Champagne-Ardenne. Là, c'était sympa, c'était nature et vitrail, donc ça s'est déroulé dans la maison du vitrail d'Armance. Voilà, donc on peut voir justement un vitrail fait à partir de nature et de faune et de flore.
Et quel est votre objectif, vous qui êtes toute jeune, c'est de travailler donc tout ce que vous nous avez proposé, c'est-à-dire à la fois les bijoux, les luminaires, le vitrail, ou si bien c'est aussi d'exporter, d'aller à l'étranger travailler sur tous ces sujets?
Il y a un peu de tout, oui, comme j'aimerais bien aussi exporter un peu à l'étranger. Après, mon idée de base, c'est de, comment dire, montrer une autre image du vitrail, hein. C'est-à-dire que, par exemple, là, j'ai associé le béton. C'est une image qu'on ne voit pas forcément souvent dans le vitrail.
En fait, vous voudriez remettre au goût du jour le vitrail. Vous trouvez qu'on l'utilise pas assez?
Oui, oui, oui. Puis même les pieds de verre. Bon, voilà, moi, je suis souvent dans la récup. J'aime bien raconter des histoires dans mes lampes avec des pieds de verre complètement originales. Donc, on peut trouver des pieds de verre, voilà, sculptés, déformés, voire même cassés. Même certains verres imprimés aussi, je les ai trouvés, donc il y en a qui n'existent plus. Donc ça aussi, ça fait partie d'un charme en fait sur la lampe.
Voilà. Alors, artiste verrier, il faut quand même expliquer aux auditeurs, on ne souffle pas le verre, hein, le travaille.
On le travaille. moi, je travaille, disons, à froid, mais de temps en temps à chaud. Si je fais des cuissons, voilà, je suis obligée de faire des...
Ça demande beaucoup d'investissement en matériel quand on est artiste verrier comme vous?
Oui, oui, bah écoutez, oui. Là, voilà,
Donc le four,
avec mon chéri, on a déménagé. On était au départ sur le Plessis-Bouchard, donc dans un petit appartement. C'était pas très pratique pour les chantiers au départ. Donc avec les allers-retours à Clamart, parce que Gilles Audoux est à Clamart. Donc c'était un peu crevant, donc j'ai décidé avec mon chéri qu'on allait s'installer dans la campagne, donc dans le Loir-et-Cher.
Donc vous partez juste dans le Loir-et-Cher, ça y est, vous êtes parti.
Mais je reste en relation donc avec la région parisienne pour tout chantier et même dans toute la France. Et donc là, on a commencé à établir un vrai atelier de vitrail.
Oui, parce que vous avez, au moins là-bas, vous avez plus d'espace.
Oui, tout à fait.
C'est ça l'avantage.
Oui, oui, oui. En région parisienne, c'est un peu plus compliqué.
Et plus cher, j'imagine.
Oui, aussi plus cher.
Donc on a la chance de vous avoir avec nous aujourd'hui, Julie Dahan. Alors je rappelle que vous êtes artiste verrier, qu'on peut voir votre travail en luminaire et en bijoux à la boutique à Enghien-les-Bains.
Tout à fait.
Voilà. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour le futur?
Bonne chance.
Donc, on va vous souhaiter bonne chance, mais quels sont vos objectifs dans les mois à venir? C'est quoi? C'est de faire des bijoux? C'est de retrouver d'autres chantiers sur des beaux vitraux du 16e siècle?
Oui, là, après, je suis sur différents concours en vitrail, et puis même pas forcément vitrail, en contemporain. Après, j'espère aussi que les marchés ne vont pas non plus s'annuler à cause de la Covid. Ça, c'est un peu contraignant, mais bon, voilà.
Comment vous faites pour être au courant des marchés publics?
Nous, on fonctionne par le site directement Corus. Donc voilà, c'est directement sur Internet, on recherche.
Carrément.
Voilà. Il y a pas
voilà.
De...
Et puis sinon,
puis,
on va.
Généralement, bon, bah voilà, on connaît bien notre architecte qui nous dit, mais il y a un chantier. Voilà.
Donc voilà, vous avez créé un réseau d'architectes pour pouvoir vous faire référencer.
Voilà.
Merci beaucoup, Julie Dahan, d'être venue nous voir. Alors, les bijoux, on va rappeler les tarifs. Ça part de 15 euros, vous avez
jusqu'à
dit.
Jusqu'à 25 euros.
Jusqu'à 25 euros, donc c'est très raisonnable. Et les lampes, il faut compter combien?
Voilà, entre 50 euros. Et 600 euros suivant la complexité.
Et voilà, merci beaucoup. Et puis donc, on vous retrouve à rue du, 16 rue du Général de Gaulle, à la boutique C'est Vrai, bien
merci
entendu.
Beaucoup.
Alors, dernier artiste pour cette émission du Bar de l'économie sur IDFM. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous mettons en avant l'artisanat en France et notamment les artistes d'art. Et j'avais la chance d'avoir à mes côtés Yves Cogent d'Assamy, directeur du développement économique de la Chambre des métiers de la Chambre des métiers du Val d'Oise, Florence Parigo qui conçoit et fabrique un accessoire de mode, un bijou de lunettes pour accrocher sa branche de lunettes, Julie Dahan que vous venez d'entendre qui est artiste verrier, et puis maintenant nous allons passer la parole à Laurent Delolle. Alors vous êtes artisan en métier d'art et vous fabriquez des magnifiques bijoux fantaisie. Laurent Delolle, on peut les voir pour ceux qui nous suivent en Facebook puisque vous avez apporté trois bijoux collier même, je peux dire. Mais vous avez créé, vous avez commencé la création ou la vente de ces bijoux en 2016 et c'était un tournant stratégique. Expliquez-nous pourquoi.
Pourquoi ? Parce que, alors d'abord, merci de m'avoir invité. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas du tout ma formation initiale. Jusqu'en 2016, j'étais salarié, j'étais ingénieur en informatique. Donc absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. C'est parti en fait d'une idée ou d'un désir de ma part. Alors que vous disiez que ça avait commencé en 2016, ça a commencé un petit peu avant, dans les années 2013 à peu près. Où en fait j'ai eu la volonté de m'acheter tout simplement un bracelet en cuir.
Mais auparavant, avant 2013, vous ne faisiez
avant
aucun
2013,
bijou.
Je ne faisais aucun
vous
bijou.
Vous ne dessiniez pas. À vos heures
j'ai
perdues.
J'ai toujours été fasciné par les travaux manuels, par les métiers d'art, les ébénistes, les souffleurs de verre. Ce que peut faire
Julie Dahan
aujourd'hui, voilà. J'ai toujours été passionné par ces activités que je trouve absolument sensationnelles. Moi-même, j'ai toujours été attiré par les activités manuelles. J'ai fait pas mal de peinture, de l'aquarelle, de l'huile. J'ai fait beaucoup de. Je n'en fais plus maintenant.
Vous n'avez plus le temps.
J'ai plus le temps. Voilà, je me consacre essentiellement aux bijoux. J'ai fait beaucoup de maquettisme naval. Donc activité manuelle qui nécessite quand même une certaine précision et une certaine minutie, mais je n'avais pas du tout l'idée de débuter un projet autour des bijoux fantaisie. Ce projet a débuté presque comme une anecdote, puisque comme je vous le disais juste avant, j'ai voulu un bracelet de cuir pour moi. Et en cherchant sur les différents sites et dans les différents magasins de bijoux pour hommes, je n'ai jamais trouvé ce qui me plaisait. Et j'ai constaté qu'on avait toujours les mêmes modèles qui étaient proposés. J'ai donc décidé de créer et de me fabriquer mon propre bijou, qui était un bracelet tout à fait simple, qui était un ensemble de 4 lanières de cuir sur un fermoir. Et donc, évidemment, quand j'ai commencé à porter ce bracelet, mes amis, ma famille, donc mon entourage proche, m'ont posé la question de savoir où j'avais eu ce bracelet que j'avais autour du poignet. Et quand je leur ai effectivement dit que c'était moi qui l'avais fabriqué, j'ai commencé à avoir quelques commandes dans mon entourage proche. Donc j'ai fait quelques bracelets cuir pour hommes, pour femmes, et puis donc de fil en aiguille. C'est quelque chose qui m'a passionné de plus en plus.
Mais enfin là, vous étiez toujours informaticien, c'est bien ça ?
Toujours en activité, absolument. Parallèlement à ça, effectivement, mon emploi d'informaticien ne me convenait plus. même si effectivement j'avais une très bonne situation puisque j'avais 15 ans d'ancienneté dans la société que j'ai quittée.
Et puis on gagne bien sa vie, il n'y a pas de chômage dans l'informatique.
Dans l'informatique, maintenant on la voit partout, donc il n'y a pas de chômage. Mais donc là aussi, je pense que pour beaucoup d'entre nous, le passage de la cinquantaine reste un tournant. Et donc en 2016, l'année de mes 50 ans...
Donc en fait, on se pose des questions.
En tout cas, ça a été le cas pour moi.
Pour vous.
J'ai décidé, alors moi je n'ai pas fait partie d'un plan social, c'est moi qui ai décidé de partir. J'ai demandé une rupture conventionnelle à ma société. Et je me suis vraiment lancé dans cette aventure du bijou fantasy.
Alors, est-ce que avant de lancer votre propre société, puisque vous êtes en forme de SAS, vous,
exactement,
Laurent Delol, est-ce
oui.
que vous avez fait des formations complémentaires?
Absolument
ou pas?
Absolument pas.
Tout sur
je
le tas. Vous avez tout appris sur le tas.
Je suis complètement autodidacte, passionné et autodidacte. Oui.
Vous partez du bracelet en cuir.
Je pars du bracelet en cuir. Donc, j'ai commencé en fait. Les bijoux avec des bracelets en cuir et des bracelets en perles naturelles, en pierres naturelles, pour hommes. Donc j'avais une toute petite gamme en fait. J'ai eu la chance de pouvoir exposer dans une petite boutique de vêtements pour hommes en plein cœur de Paris, puisque je connaissais le gérant et donc pour tout vous avouer, j'y suis allé un petit peu au culot en lui demandant s'il accepterait d'exposer mes bijoux. C'était en 2014 et ça continue aujourd'hui. Mes bijoux sont toujours exposés dans cette boutique, donc ça a été un petit peu le pied à l'étrier pour, je dirais, l'activité commerciale autour de ma passion. Et puis ensuite, j'ai continué à développer mes gammes. Je suis parti sur les bijoux femmes, donc bracelets, colliers, boucles d'oreilles. Et j'ai commencé à travailler sur les deux techniques qui sont présentées, que je vous présente ici aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, pour tous ceux qui nous regardent en vidéo, on peut voir effectivement des colliers. Donc une technique sur métal, j'imagine, avec des pierres extrêmement petites.
Extrêmement petites, puisque ce sont des perles qui font 1 mm.
Comment vous faites pour
alors,
vous avez des lampes et des aiguilles spéciales?
Alors j'ai parce qu'effectivement la cinquantaine c'est aussi la vue qui baisse un petit peu hein, comme beaucoup d'entre nous, donc j'utilise une paire de lunettes spécifiques plus une loupe plus une lumière assez importante pour pouvoir travailler ces petites perles.
Alors, c'est vous qui faites tout seul hein, ou bien vous avez de l'aide, vous utilisez un autre savoir-faire?
Non, c'est moi qui fais tout seul. Alors, j'ai quand même, de par mon ancien métier, l'outil informatique qui m'aide un petit peu uniquement pour dessiner les patrons des pièces que je réalise. Je peux les dessiner et je peux avoir une idée de l'objet final puisque je les dessine et j'utilise les couleurs des perles que je vais utiliser. On m'a déjà posé souvent la question, en tout cas pour ces deux colliers qui sont présentés là, de savoir si j'utilisais un métier à tisser. Non, j'utilise simplement du fil et une aiguille. Je n'ai aucun autre support qu'une aiguille.
Vous ne dessinez pas le bijou avant?
Je le dessine avant, bien évidemment, comme je vous le disais sur ce logiciel, je le dessine avant avec les couleurs pour avoir une idée. Surtout quand ce sont des motifs géométriques, c'est moi qui fais des recherches sur la géométrie que je peux proposer. Là, je suis parti sur des styles un petit peu art déco, on va dire. Et ensuite, grâce à ce patron que j'ai imprimé, je commence le tissage au fil et à l'aiguille.
Et donc, le tissage est fait sur du tissu au départ?
Absolument pas. Le tissage n'est fait qu'avec les perles que j'utilise.
D'accord. Donc, il n'y a aucun autre support.
Il n'y a aucun autre support. Ce qui fait que, par exemple, là, si je...
Donc, il est recto verso.
Il est absolument, recto-verso.
Donc, en plus, c'est souple. C'est recto verso.
C'est assez léger. Là, j'ai pas apporté de bracelet, mais j'ai fait des bracelets sur la même technique où on n'a pas la question de se poser de quel côté on va devoir le mettre puisqu'il est parfaitement recto verso. J'utilise aussi des fermoirs qui peuvent être utilisés d'un côté ou de l'autre.
Alors les chaînes et les fermoirs sont en quelle matière, Laurent?
Les chaînes et les fermoirs, ce sont des chaînes en métal doré ou argenté en fonction du pendentif que je dessine et que je crée.
Alors vous faites aussi du crochet sur l'autre,
alors,
le dernier collier, je sais
là,
pas.
Alors cette technique-là n'est ni du crochet, ni du macramé, ni de la broderie. Alors, vous allez me demander de quoi s'agit-il.
Bien sûr.
C'est une technique. Alors, ce sont des choses que j'ai cherchées aussi sur Internet, hein, parce que je ne voulais pas me contenter des bracelets de cuir et bracelets de perles. Donc, j'ai essayé aussi de proposer des choses qu'on a moins l'habitude de voir, qui sortent un petit peu, je dirais, des sentiers battus dans la bijouterie fantasy. Alors, cette technique m'a énormément plu de par le rendu. Et aussi, un petit peu quelque part, à cause du nom qu'on lui donne. Puisque cette technique de fil de coton noué, c'est pas de la broderie, c'est du coton noué, on appelle ça de la frivolité. Donc j'ai trouvé ça tout à fait charmant. C'est une technique qui est assez ancienne et qui remonte en France au 19e siècle.
C'est ça.
Où dans l'aristocratie française, pardon mesdames, vous n'aviez pas vraiment le droit à la parole dans la vie sociale ou politique. Donc ces dames se retrouvaient dans des salons pour broder, pour nouer du coton, pour et échanger des discussions, on va dire sans grande importance, malheureusement, heureusement en tout cas pour aujourd'hui, ça a bien changé, mais à cette époque-là, c'était le cas. Et donc, ces dames échangeaient des propos frivoles, donc des propos sans importance, d'où le nom de cette technique qui est devenue de la frivolité.
Ah, donc, ce sont ces fameux colliers en tissu mélangés à des pierres.
Mélangés à des pierres,
à des perles. De voilà. Verre ou semi-précieuses, j'imagine.
Exactement, puisque j'utilise aussi alors, des pierres semi-précieuses, oui. Je travaille aussi avec des cristaux Swarovski pour apporter
de la brillance.
Un charme et de la brillance au fil de coton que je noue.
Donc c'est magnifique, hein. Là, merci. C'est un très beau collier bleu associé à des perles Swarovski qui sont donc mordorées.
Qui sont mordorées, facettées, donc qui renvoient parfaitement la lumière et qui contrastent un petit peu avec le mat du fil de coton.
Alors, est-ce qu'on peut aussi vous apporter ou vous demander des choses sur mesure? Je pose la même question que...
On m'a déjà demandé des choses sur mesure, que ce soit pour des colliers, des bracelets. Alors, j'ai eu la chance l'année dernière de participer au salon du mariage. Et pour justement la partie frivolité, on m'a demandé de travailler sur des projets de bijoux de tête ou des ornementations de robes de mariée réalisées en frivolité.
Justement. Moi, je connais vos bracelets et c'est vrai que c'est magnifique. Merci. En plus. Donc, je comprends que vous ayez beaucoup de demandes. Que vous, enfin, j'espère. En tout cas, je suppose que le métier d'informaticien vous aide à faire votre communication et peut-être le site internet.
Le métier d'informaticien m'aide puisque j'ai réalisé moi-même le site internet que j'utilise aujourd'hui, qui est un site de e-commerce. Qui m'aide aussi un petit peu puisque je suis également sur certains réseaux sociaux. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un point de passage obligatoire, d'autant plus pour nous qui n'avons pas forcément un réseau très étendu puisqu'on travaille beaucoup par le bouche à oreille, hein, entre artisans. Effectivement, c'est un métier qui m'aide aujourd'hui quand même.
Quels sont les tarifs ou la fourchette, on va dire?
Alors, la fourchette est assez large puisque j'ai décidé de proposer une gamme assez étendue de bijoux en partant des bracelets assez simples
pour homme,
en cuir
donc.
Ou en perles pour hommes et pour femmes jusqu'à ces réalisations-là. Donc, pour donner une fourchette vraiment très très large, hein, je pars des premiers prix qui sont à peu près de 25 € pour arriver à des pièces comme celle-ci. Donc, le plastron
un collier plastron
en perles de verre tissé qui est à 240 €.
Voilà, donc ce sont les budgets moyens, on va dire. Après, c'est sur commande ou sur demande.
C'est sur commande, c'est sur mesure, puisque les bracelets que je réalise, j'en présente certains, mais je ne peux pas présenter toutes les tailles. Donc, je fais les réalisations sur mesure pour les bracelets, mais également pour les colliers, par rapport au tour de cou de chacun et que la personne souhaite porter.
Laurent Delolle, je vous ai rencontré à la boutique à Enghien, donc rue du Général de Gaulle. Est-ce que vous faites des salons prochainement et où est-ce qu'on
peut
vous trouver?
Alors, on devait participer à la foire de Paris, qui a malheureusement, dans un premier temps, été reportée pour être associée à la foire d'automne en novembre, qui a malheureusement été annulée purement et simplement à cause des des raisons sanitaires que nous vivons aujourd'hui. La prochaine grosse échéance pour nous, je dis pour nous parce que dans la SAS nous sommes deux associés, ce qui d'ailleurs facilite aussi un petit peu les choses puisqu'on a la possibilité comme ça de nous répartir les tâches. Moi je suis plus sur la création et mon associé plus sur les aspects marketing et commerciaux. On parlait de l'aspect marketing tout à l'heure qui effectivement est très important. Et donc notre prochaine grosse échéance sera là aussi s'il a lieu la magie de Noël des Tuileries, c'est-à-dire le marché de Noël qui se tiendra dans le jardin des Tuileries du 22 novembre au 3 janvier.
Au 3 janvier, voilà. Donc pour comme pour la Chambre des métiers du Val d'Oise, donc c'est le marché juste avant donc les fêtes de Noël. Donc
exactement.
Si vous avez besoin de cadeaux, eh bien vous pouvez aller à la boutique à Enghien pour retrouver les bijoux de Laurent Delolle, ou bien aller sur les marchés dont on vient de vous parler à Paris du 22 novembre au 3 janvier, et puis à la Chambre des métiers du Val d'Oise. On espère qu'il va se tenir. On attend encore la confirmation du préfet.
Exactement.
Donc ça, c'est pour mi-novembre. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour le futur, Laurent Delolle? Parce que la pandémie a dû ralentir un petit peu l'activité.
Alors je dirais que pour moi, ça n'a pas été finalement si difficile que ça. Le confinement, puisque je suis quelqu'un d'assez casanier et que mon petit atelier se trouve à mon domicile. Donc ça m'a permis de me consacrer réellement à 100% à la création et à la fabrication de pièces dans l'optique de participer
qui
à des salons.
Qui sont des pièces uniques, j'imagine qu'on
ne
fait pas deux fois la même chose.
Ça peut m'arriver, mais de toute façon, ça ne dépassera jamais... 5 ou 10 pièces grand maximum.
Bien sûr.
Oui, de toute façon, ça
vous les signez, vous mettez votre nom quelque part ou une.
Ça fait partie des choses qui sont à mettre en place. Aujourd'hui, elles ne sont pas signées. On envisage de travailler sur une petite pastille ou une petite breloque avec notre logo pour identifier nos bijoux.
C'est une bonne idée, oui. En tout cas, et c'est magnifique. Bravo à vous tous aujourd'hui, parce que c'est splendide. Donc, Laurent Delolle, si on veut vous contacter, on va sur quel site internet?
Alors, le site internet est le site www.insoliteetsecret.fr.
Merci beaucoup. Julie Dahan, si on veut vous contacter, il y a un site internet également où...
En cours.
Le site est
Facebook,
en cours. Et les réseaux sociaux sur
Instagram.
Facebook. Et Instagram, bravo en tout cas à tous les deux. Pour ma part, cette émission s'achève. On va vous souhaiter une très belle journée. Et bien sûr, je vous retrouve dès mercredi pour ma part. Demain, c'est Jacqueline Voraz au micro. Très bonne journée. Ciao, ciao.